Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de Public Housing, un film de 1997, l'un des nombreux grands films, je crois, de Frédéric Wiseman. C'est une séance qui est jumelée, comme on l'avait fait pour une Jackson Heights à l'automne, avec les programmations de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, dont vous avez vu la bande-annonce, et donc dont la programmation va continuer avec la cinémathèque du documentaire, bien sûr, et aussi dans un lieu peut-être pas encore connu, tout au long de l'hiver et du printemps. Voilà, on est ravis, je suis ravi d'accueillir Camille Buis. Camille est enseignante, chercheuse. C'est une Wisemanienne, voilà, comme tous les gens qui défilent ici depuis septembre. C'est aussi une plume, je trouve, voilà, très précieuse sur le cinéma documentaire. Elle a écrit notamment au Cahier du cinéma un article en 2016, je ne sais plus exactement le mois, mais un long article sur Frédéric Wiseman qui s'appelait « Curiosité infinie ». Frédéric Wiseman, et je trouve que c'est un très bel intitulé de parler de la curiosité infinie de Frédéric Wiseman. Et puis, Camille a aussi beaucoup travaillé sur le rapport entre ville et cinéma, aussi bien les City Symphonies de l'entre-deux-guerres, mais aussi de façon plus contemporaine, avec notamment Ciné pratique de la ville, documentaire de l'urbanité, après Chronique d'un été, paru en 2018. Donc voilà, Camille ne pouvait que intervenir. Je vous demande de l'accueillir, je vous demande de me rejoindre.
Merci beaucoup de l'invitation, et je suis surtout honorée d'être avec vous et puis de pouvoir participer à cette rétrospective. Voilà.
Alors on va faire, n'ayez crainte, on ne va pas faire une conférence introductive, sachant que le film est assez long, donc on va faire une introduction, enfin Camille va nous parler brièvement du film, et puis ensuite, ceux qui le voudront, eh bien on échangera après le film. Voilà, Camille, je te laisse dire quelques mots avant la séance.
Oui, voilà, quelques minutes, ne vous inquiétez pas, pour peut-être donner des lignes aussi possibles pour la discussion auxquelles vous ajouterez évidemment les vôtres. Moi, ce qui me frappe avec Public Housing, c'est qu'il appartient, il semble appartenir à un ensemble qui n'est pas celui qu'on a souvent en tête quand on pense à Wiseman, celui du fil institutionnel, hein, puisque en parallèle à ce fil institutionnel, il y a aussi ce qui serait une ligne urbaine chez Wiseman, celle de tous ces films qui ont pour périmètre pas un lieu unique, mais une portion du tissu urbain englobant une diversité de lieux. Donc on peut penser en 89 déjà à Central Park, alors un lieu mais extrêmement hétérogène, et puis ensuite Belfast, Maine en 99, une Jackson Heights en 2015, Monrovia, Indiana en 2018, et puis City Hall en 2020. Donc des films où Wiseman circule entre différents espaces, différents types de lieux, qui certains appartiennent à l'organisation institutionnelle de la société, mais il s'intéresse aussi à des espaces associatifs, des espaces militants, toutes sortes d'espaces de sociabilité informelle ou différente par le bas, et auxquels s'ajoutent aussi les espaces publics, les trottoirs, les places, les parcs, où circulent des individus, des groupes qui sont par ailleurs séparés. Donc là, dans Public Housing, on est dans le complexe de logements sociaux publics Ada B. Wells à Chicago. Donc on voit assez vite, hein, et on s'imagine bien, voilà, l'intérêt de Wiseman s'est porté sur un territoire marginalisé, où on verra des citoyens, citoyennes, en majorité afro-américaines, hein, qui ont peu de possibilités d'échapper aux inégalités économiques et au racisme. Et Wiseman met en scène ce quartier comme une grande scène commune. Et ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont dans le film s'affrontent deux façons de construire le collectif. Une façon, disons, par le haut, hein, celle qui vient des pouvoirs publics ou économiques, l'office du logement, les investisseurs qui ont des mots d'ordre du type « soyez créatifs »,« be leaders », plein de bonnes intentions mais qui nient le déterminisme social. Et alors que par ailleurs, il y a aussi toute une autre façon de penser le collectif en acte qui est à l'œuvre dans différentes initiatives citoyennes, qui repose sur la solidarité, l'entraide, et qui essaye de déjouer justement cette mise en concurrence cette participation au capitalisme qui serait la seule perspective d'évolution. Et le montage chez Wiseman se charge, comme toujours, hein, d'essayer de créer lui aussi sa forme de sociabilité, une forme d'égalité sur cette scène collective qui pourtant est traversée par évidemment toutes sortes de rapports de pouvoir. Et lui, par l'attention qu'il porte à la fois aux individus et aux différentes configurations du collectif, en faisant à la fois des gros plans, des plans larges, en ne faisant jamais le jeu de la mise en scène sociale par ce qui serait un simple champ contre champ entre la tribune et le public, il recompose sans cesse la forme de ce collectif.
C'est bien. Oui, oui. Ben, merci. On en finit là, Camille. Et puis, on en finit. Et on se retrouve dans 3h16. Okay. Voilà. Bon voyage. Bien, on va, ceux qui ne sont pas encore guidés par la fin, on va un petit peu échanger. Camille a mené au pas de course une très très belle présentation qui nous donnait beaucoup de repères, de lignes éventuelles à suivre. Peut-être tu as parlé du montage et d'un caractère démocratique du montage Wisemanien. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus?
Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle souvent de la méthode Wisemanienne, l'observation évidemment, mais ce qui me frappe dans chacun de ces films, à l'échelle de chaque film et de chaque séquence aussi, c'est au contraire la malléabilité du montage, le fait qu'il n'y a pas de système et qu'on dirait qu'il cherche la forme juste pour chaque séquence et donc il s'autorise en termes de découpage, enfin qui est fait au tournage et au montage, mais une grande variété en fait de types de plans et de types de raccords ou d'absence de raccords. Bon, et là c'est assez net hein, dans toutes les séquences de réunions, de discussions, d'échanges, la façon dont bon, il y a parfois évidemment des plans d'ensemble, des plans généraux, mais qui en général ne viennent pas au début de la séquence. Donc on n'a pas très clairement comme ça la géométrie de la mise en scène sociale. C'est vraiment quelque chose qu'il reconstruit par le découpage, avec cette attention beaucoup au visage, évidemment, dans des gros plans, une attention aux personnes qui se tiennent côte à côte, parfois dans le même plan, parfois c'est une manière de faire bouger la caméra, donc par des brefs panoramiques pour les faire se rejoindre, des moments où le cadre s'élargit, mais il n'y a vraiment pas de systématisme, et au sein même d'une séquence, il va saisir une même personne selon différents angles, etc. Et puis à des moments, de façon assez surprenante, refaire un plan d'ensemble qui pourrait être classiquement un plan de situation qui introduirait pour ensuite aller chercher des détails à l'intérieur. En fait, non, ça arrive à un autre moment. On se dit, ah tiens, en fait, ils sont assis comme ça dans la salle. Et on se rend compte à quel point voilà, le montage a dessiné notre manière d'envisager les relations au sein du collectif. Et dans toutes les situations où il y a des personnes qui représentent l'office du logement notamment, et qui se tiennent comme ça dans une position a priori d'autorité face à une salle qui devrait écouter, en fait on n'a pas du tout cette sensation de hiérarchie, de verticalité, et au contraire on a l'impression qu'ils sont vraiment au même niveau, et cette égalité entre les participants contre la mise en scène sociale et les lignes de pouvoir, ça passe aussi beaucoup chez Wiseman, vous le savez, mais c'est frappant aussi dans ce film, par l'attention portée aux personnes qui écoutent. Et là, d'ailleurs, dans la dernière séquence, hein, c'est frappant, donc il y a cette parole très forte, donc quand même là, quelque chose d'assez binaire, quelqu'un qui parle, les autres qui écoutent, mais dans les manières d'écouter, il y a tellement de façons différentes d'être présent et d'être habité par une subjectivité, même si elle ne s'exprime pas par la parole. Il y a bon, ceux qui s'endorment, qui s'ennuient, ceux qui ont l'air intéressés, ceux dont on sent qu'ils se demandent un peu comment ils vont effectivement réagir à ça. Et dans tout le film, il y a des scènes d'écoute très fortes, et la séquence d'ouverture notamment, avec cette femme qui défend la jeune mère sans logement. Et cette séquence d'ouverture, je me disais, elle est à la fois une façon pour Wiseman de nous placer dans ce qui va être son point de vue dans le film, c'est-à-dire vraiment la défense de l'humain contre l'argent qui est non. et qu'incarne cette femme. Mais il y a aussi cette jeune femme qui écoute et qui n'est pas voilà, simplement la victime du système, mais qui est, on sent qu'elle est présente par cette écoute. Et puis on sent l'effet qu'a aussi, enfin je trouve, peut-être je projette, hein, l'effet qu'a le discours au téléphone qui ne s'adresse pas à elle, mais dont elle est l'objet. Mais en fait, elle n'est pas objectivée par ce discours. Au contraire, on sent que, enfin, on imagine qu'elle ressent que ce discours lui est en fait adressé, puisque c'est ce qu'elle lui dit à la fin. Il y a quelqu'un qui va te défendre, qui va lutter pour toi. Et donc c'est un moment où elle, enfin voilà, sa dignité est très présente, alors même que c'est pas elle qui prend la parole. Voilà, je dis beaucoup de choses.
Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Ce dont tu as parlé avant la projection, c'est l'idée de scène, de la scène Wisemanienne. Hein, on sait très bien la question de la scène et de la théâtralité. Et là, c'est une scène effectivement particulière, une aire large de l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Enfin, et évidemment, dans toute la subjectivité de Wiseman, la façon dont il recompose tout, il recompose aussi un espace, c'est-à-dire que c'est absolument pas le film d'un géographe, que un géographe n'aurait surtout pas fait ça, si on peut dire. Enfin voilà, qu'est-ce que ça t'inspire, est-ce que tu peux développer cette idée de scène urbaine, wisemanienne que tu as?
Oui. En fait, d'un côté, on pourrait se dire, bon, c'est pas du tout comme ces films en institution, mais bon, en réalité, évidemment, on retrouve le périmètre. Voilà, il ne filme qu'à l'intérieur du quartier. Il y a tout ce hors-champ de tout le reste de la ville et puis de toute cette société blanche capitaliste à laquelle, voilà, dont le quartier est isolé, en fait. Donc, il y a ce hors-champ qui est très présent, enfin, comme dans tous les films de Wiseman, en même temps qu'on se concentre sur cet espace-là. Et c'est un espace. C'est en fait une des choses que je trouve intéressante, c'est qu'il y a des scènes en extérieur et des scènes en intérieur, mais toutes les scènes en intérieur, même quand on est chez des habitants ou des habitantes, les moments où on est chez des habitantes, c'est toujours des moments où il y a quelqu'un de l'extérieur qui entre. Donc c'est pas la caméra de Wiseman qui simplement ouvre, fait que la porte s'ouvre, lui il emboîte le pas à des gens. Donc c'est toujours, même les lieux intimes sont toujours le lieu au fond de situations de situations sociales qui dépassent la sphère intime et qui sont de l'ordre de ce qui intéresse Wiseman aussi d'habitude, enfin, tel qu'on se le représente en général. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est un espace public qu'il filme en fait de bout en bout, même quand on est dans des espaces intimes. Et d'ailleurs c'est le principe aussi là de ce quartier de logements sociaux publics. Hein. On voit que c'est quand il est question du frigo, est-ce que c'est le frigo du quartier, etc. Enfin, en fait ils vivent dans un espace qui est un espace public, mais délaissé en même temps, donc avec toute cette tension là. Et après, il filme aussi le quartier, l'extérieur. C'est assez récurrent, ces plans sur la grande route qui a l'air de... On ne sait pas si elle traverse le quartier ou si elle l'aborde. Voilà, ce n'est pas très clair, justement, la géographie. Mais on sent que voilà, y a le hors-champ, il y a l'extérieur, il y a ce qui se passe au-delà du quartier, mais on reste autour. Et la représentation que le film m'en donne, c'est... Enfin, j'ai l'impression que le montage du film obéit aussi à ce principe géographique, c'est-à-dire qu'on alterne des séquences avec soit des entretiens, des discussions en intérieur, dans différentes unités, soit privées, soit des bureaux, des moments de réunion, qui sont entrecoupés de ces moments, alors soit qui sont vraiment comme des transitions, on a simplement des plans dans la rue, avec des gens qui passent, des voitures qui passent, ou des séquences vraiment en extérieur, qui d'ailleurs sont souvent avec la police, qui est cette force qui vient, quadriller le quartier. Et une des questions que je me posais en revoyant les séquences avec la police, je me disais, dans quelle mesure la caméra de Wiseman dans les moments avec la police a ce regard policier, on peut dire, il est là, il y a le moment d'ailleurs de la poursuite, un moment où la caméra carrément court après lui. Bon, évidemment, le regard de Wiseman n'est pas un regard policier, mais je me disais, il y a cette telle présence de la police en fait dans le quartier que tous les plans qui... qui observent la vie dans la rue, la vie dans l'espace public, sont au fond quand même tentés, ne s'identifient pas au regard policier, mais il y a toujours ce regard qui plane quelque part de la surveillance, et donc c'est un enjeu pour Weisman, comment il filme sans être dans ce regard-là, et évidemment il y a plein de moments où il n'est pas avec les policiers, bon, notamment je sais pas, la séquence de la fête qui est très belle, et c'est un moment où on sent que les habitants et les habitantes sont libérés de ce regard-là et peuvent voilà, occuper, investir l'espace public sans être sous surveillance.
Ce rapport à la police rappelle un peu la question que peut poser Law & Order, qui est un film des débuts de 1969, mais effectivement un film énoncé de la police depuis l'institution policière, mais pas du point de vue de la police. Donc ça, c'est toute la peut-être aussi le talent de Weisman de pouvoir être de filmer depuis une institution sans être le regard de cette institution. Voilà, peut-être.
Si je peux, ça me fait penser. En fait, ce que je trouve frappant à chaque fois, c'est la manière dont il arrive à filmer dans le même temps, donc au sein d'une même séquence, à la fois, c'est ce que les rôles sociaux auxquels. Les rôles sociaux que représentent, qu'incarnent les gens, là notamment la police, hein, et en même temps de filmer et saisir la façon dont chaque personne interprète, a une marge d'interprétation par rapport à ses rôles, et c'est toujours frappant, et ça se joue beaucoup dans la durée des séquences. Quand commence la première séquence avec la police, où il discute avec cette femme qui est dans la rue, qui visiblement ne commet d'autres délits que d'être simplement présente dans la rue, mais soupçonnée. D'emblée, on se dit les policiers sont simplement ce rôle de répression et de contrôle. Et puis la séquence dure, et puis il y a ce policier qui commence, donc qui l'interroge. Alors c'est évidemment un interrogatoire, mais en même temps, ça devient étrangement aussi un souci pour cette personne. Puis à la fin, il lui dit « Tu seras mon projet spécial, je vais te surveiller ». Donc à la fois, c'est de la surveillance et du contrôle, et ça pourrait mener à une arrestation. Et en même temps, il a l'air d'être soucieux du devenir de cette femme. Et je trouve que c'est, voilà, évidemment, quand on voit au début la présidente de la communauté, là, qui incarne son rôle et qui l'interprète d'une façon qui lui est très personnelle, la façon dont elle va se battre pour les habitants, là, il y a une sorte de convergence quelque part entre son rôle institutionnel, ce qu'on pourrait imaginer de son rôle institutionnel, et ce qu'elle en fait, qui lui est quand même singulier, mais qui convergent quand même, alors que quand c'est du côté des policiers, il y a toujours, je trouve, une tension entre, enfin, et d'ailleurs tous les policiers ne font pas preuve de ce souci-là, mais je suis frappée comme ils filment ensemble les rôles, enfin, en fait la structure et en même temps l'incarnation, quoi.
C'est vraiment là pour le coup la séquence dont tu parles, elle est typiquement Weismanienne, on va dire, où on a un mouvement qui se fait, voire presque un retournement, ou en tout cas quelque chose qui a vraiment bougé entre le début et la fin de la séquence. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut faire dans cette petite salle, on va y arriver. Si vous...
tu sais sûrement.
Non, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une question qu'on se pose peut-être particulièrement pour ce film. En termes d'altérité sociale, enfin, en termes de désespérance sociale, dans un lieu qui n'est pas une institution comme Welfare, la désespérance sociale, elle est à peu près la même qu'ici, sauf qu'on est dans une institution qui quand même donne aussi un cas. Alors que là, effectivement, il y a ce côté à ciel ouvert. Alors, moi, je n'ai pas la réponse.
Alors, je n'ai pas la réponse spécifiquement là sur ce film. Effectivement, je sais qu'en général, en fait, il demande des autorisations, en général auprès des institutions qu'il filme. Là, j'imagine qu'il est passé par cet office du logement. Après, évidemment, il faut qu'il trouve les interlocuteurs. Et après, il dit qu'il est là, simplement, il filme et que ça fonctionne comme ça, en fait, par sa présence. Justement, le fait d'autres cinéastes vont passer du temps avant de filmer, vont rencontrer les gens, négocier ça. Lui, il dit que simplement, il est là et que c'est comme ça, c'est par sa présence prolongée et, disons, obstinée, et par le fait que les gens voient comme ça, ce qui fait que bon, bah, ça fonctionne. Mais effectivement, il y a toujours l'impression que c'est assez...
Il y a quelque chose de mystérieux, hein, vraiment. Et parce qu'effectivement, il ne joue pas du tout. Enfin, il ne joue pas du tout. C'est pas que les autres jouent. Mais il n'y a pas du tout la question de d'arriver pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois sans caméra. Là, c'est toujours la méthode de Wiseman, hein, c'est-à-dire pas de repérage. Et c'est un tournage très court, hein, je crois. C'est. Je ne sais plus, c'est 37 ou 47 jours, donc on n'est pas, c'est-à-dire que ce n'était pas devenu la figure du quartier, etc. Donc et effectivement, Wiseman ne dit que cette question de la relation, de créer une communauté filmique, etc., mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait, et ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Il dit avec son air un peu... enfin, ce n'est pas du mauvais esprit, mais il dit qu'il a plein d'amis, il a assez d'amis comme ça, et qu'il ne fait pas des films pour se faire de nouveaux habits.
Voilà. Peut-être une chose à dire ou à rappeler aussi, c'est que Wiseman est à la prise de son. Et ça, alors, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, mais je me demande dans quelle mesure ça participe au fait que son rôle de cinéaste ne soit pas exactement le même que quelqu'un qui est à la caméra. Donc c'est quelqu'un qui écoute. J'imagine qu'en termes aussi de relation avec les personnes filmées, ça change aussi de ne pas être celui qui directement observe. Il faudrait lui demander.
Après, ce que disent les gens avec qui j'ai pu discuter, qui ont pu être filmés notamment à la Comédie Française, bon, c'est pas tout à fait le même, mais qu'il a une faculté extraordinaire à se faire oublier. Voilà, qu'à un moment donné, très vite, on ne le voit plus.
C'est ce qu'il dit lui-même. Il a l'air de dire que bah non, bah voilà, je suis là et puis ça marche. Quoi.
Et après, voilà, ce sont des principes Wisemaniens qui sont des grands, aussi des mystères, hein, d'une certaine façon, mais qui viennent certainement aussi beaucoup de son être, voilà, de sa.
Et je pense une façon d'assumer justement cette position-là et du coup, ça, je pense que ça doit inspirer confiance. En fait, si quelqu'un sait pourquoi il est là et le fait, je pense.
Vraiment, j'ai laissé sur mon téléphone, mais c'est très mal poli, mais j'ai pris en photo une citation là, où il parle justement de ce qu'il avait eu beaucoup de questions à la sortie du film sur cette, grosso modo, le petit blanc juif de Boston, un télo, qui va... voilà, évidemment, c'est une question à laquelle il a eu beaucoup à répondre, et il répond toujours la même chose. Hein. Tout comme il dit toujours que la caméra ne fait rien à la scène qu'il filme. Hein. Ça, c'est sa position qu'il répétera toujours. Oui. Oui.
C'est vrai que moi aussi, j'ai senti là... plus dans ce film que dans d'autres, des gestes où il signale une forme de pudeur et justement de respect du quant à soi des personnes qui filment. Et ça m'a frappé dans la scène que tu évoquais, où il y a cette dame âgée avec son chou. En fait, alors, il la filme quand même, mais il reste à distance. Il saisit sa présence et on sent bien voilà, qu'elle est très vulnérable, mais il s'éloigne aussi. Il coupe la scène, il reste. Il y a l'encadrement de la porte et on sent en fait quelque chose d'une... Et alors c'est pas lui qui est quand même, on sent quelque chose justement de ses affects sociaux en fait, ce qui n'est pas toujours le cas effectivement chez Wiseman, et il y a plusieurs moments dans le film où il y a ça.
Et en particulier, alors moi j'avais vraiment vu comme ça la scène d'ouverture avec la directrice qui joue,
complètement.
Elle s'épanouit aussi dans son rôle, elle est heureuse de jouer son personnage social. Et moi je l'avais senti finalement comme moi pour la mère adolescente, que moi j'ai trouvé un peu, se faisant pas d'illusions, enfin je sais pas. Oui. Tout senti dans une écoute émue. Et par contre, ceux qui ont le spectacle, c'est la caméra qui est quand même très frontale. Et ça, je n'avais pas du tout vu dans les premiers films en noir et blanc. C'est beaucoup plus ambigu. Moi, je préfère, je le dis carrément, parce que c'est toujours un peu comme ça, de biais. On ne sait pas si les gens font attention ou pas, le matériel ou pas. Alors que là, c'est très tranché. Il y a ceux qui fuient les champs ou qui en sortent vite. Et puis il y a ceux qui, j'allais dire, qui jouissent. Quoi. Enfin, voilà. Et je ne sais pas si c'est pas Louis, mais il y a une scène que je n'ai pas comprise. Donc, c'est le film qui se tourne. La caméra, c'est quoi? C'est une mise.
C'est une pub.
C'est le film.
C'est une pub.
Non, c'est un tournage qui a lieu. Ouais.
Wiseman, il adore filmer les et puis surtout, il adore filmer des trucs un peu ridicules avec plein de moyens, alors que lui, il est avec sa caméra 16 mm, son cadreur, un assistant et lui. C'est vraiment. Voilà. Alors, oui. Et il a tourné jusqu'en 2010, hein, Boxing Gym, encore en 16 mm. Donc il a mis beaucoup de temps. Mais alors, Wiseman, il adore ces dédoublements. Et ces dédoublements toujours un peu ridicules. Et il y en a un dans ceux qui ont vu Central Park, où il filme Coppola, qui n'arrive pas à tourner avec des dizaines de figurants, une grue, le plus grand chef-op du monde, etc. Voilà. Je pense que c'est aussi une façon de en creux de parler de son cinéma, de ça.
Oui. J'étais frappée, moi aussi, comme vous, hein, par les rôles joués, effectivement, dans l'ouverture. Et puis même, je crois que c'est la deuxième séquence, l'homme qui vient pour mettre l'insecticide, j'avais l'impression aussi qu'il était heureux de jouer son rôle pour la caméra. Et c'est pour ça aussi qu'on peut imaginer, alors ce n'est pas le cas de tous les lieux et de tous les moments au film Wiseman, mais la question d'être à l'acceptation de la caméra, ça se joue aussi dans le désir d'être filmé à un moment, d'être filmé, enfin, que ça rencontre ce désir-là. Et c'est vrai que là, ça se voit dans plusieurs moments de performance documentaire, mais vraiment l'adresse effectivement du public qu'on est. Quoi.
On le voit très bien dans cette publicité, combien les gens ont envie d'être filmés aussi, pas seulement par Wiseman. Et c'est un peu tout à fait, enfin, pathétique et assez terrible, hein, d'ailleurs, c'est vraiment l'anti. Enfin, là, c'est des moments où Wiseman définit son cinéma par contraste. Hein, voilà. Et je me demandais aussi, parce que si d'une certaine manière, il n'a pas une sorte de. S'il ne se reconnaît pas dans cette vieille dame avec son chou, ça me fait penser à Wiseman et ses rushs et le montage. Voilà, d'éplucher sa matière. Voilà, je lui demanderai si.
Choisir minutieusement.
Si j'ose.
Il ne fait pas partie de cette communauté et c'est quelque chose que justement pose souvent en question et que ce programme met souvent en question. Alors, selon vous, en quoi il est remarquable en deux mots, je ne vais pas plomber tout le monde, mais en quoi il est remarquable, vous remarquez dans ce cadre-là, si on devait l'interroger par ce biais-là? Arnaud a très justement dit que ce n'était pas du tout un film de géographe.
Non, c'est pas la colle, mais du coup, il faut relier d'autres, enfin, passer par d'autres chemins. Effectivement, je l'ai pas réfléchi de cette façon. En fait, je me demande ce que quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la démarche de Wiseman penserais de ce film. Je trouve ça difficile d'imaginer ce que je pourrais penser de ce film en termes de filmer un quartier populaire depuis la position d'un homme blanc de Boston, sans là me dire, bah, en fait c'est Wiseman et je sais qu'il fait ça, il a cette démarche-là, qu'il a eu aussi ailleurs dans d'autres endroits, il filme certes une altérité de plein de points de vue, mais en même temps, on sait qu'il veut interroger la société qui est la sienne au-delà de ça, donc j'ai pas l'impression, et d'ailleurs ça me frappait aussi en voyant ce film-là, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a de l'exotisation dans la mesure où bah, voilà, il filme une communauté d'Afro-Américains pauvres, et c'est pas du tout, évidemment, et en plus il montre des choses vraiment très très dures en termes de misère, enfin, et en fait, je me disais, bon, y a, pour moi, y a dans la manière de filmer, bon, qui est la sienne, et le fait d'accorder son attention, je trouve subjectivante, à chaque personne au même titre dans ce film que dans d'autres films et d'une séquence à l'autre selon les personnes, on n'est pas dans ce voilà, il n'adopte pas un regard surplombant, enfin ici comme ailleurs disons, et par ailleurs le fait, je trouve, que dans son montage il est conservé des moments où en fait est dénoncé, alors de manière directe ou indirecte, le racisme structurel. Alors il y a plusieurs moments, enfin c'est bah, le moment où il y a le, je crois que c'est, je sais pas si c'est un médecin, enfin qui fait cet entretien avec un homme, avec un toxicomane, et qui lui dit, mais en fait vous faites partie de voilà de le groupe de gens au monde dont il fait partie lui aussi, qui a perdu l'espérance de vie, donc ce sont les hommes noirs, enfin voilà, c'est une façon de dire, bon, de dire de quoi on parle là. En fait on parle pas juste de la misère, mais en fait on parle aussi d'une société capitaliste et raciste, et voilà, c'est, et donc il depuis sa position extérieure, il prête attention à ça, et il y a d'autres, j'ai plus en tête, mais ça m'a frappé à plusieurs moments où c'était très net en fait que c'était ça. Ah bah, quand il y a la personne qui parle de ce que sont devenus ses amis, et qui dit les noirs, nous on est allergiques à la drogue, etc. Donc c'est évidemment, c'est pas un discours militant, mais en fait c'est des paroles qui pointent la dimension structurelle justement de ces destins individuels. Et du coup pour moi, par là, Wiseman fait en fait ce qu'il peut faire depuis son point de vue, qui est il a le pouvoir lui de faire un film et de regarder cette communauté qui n'a pas les moyens peut-être économiques et symboliques de faire un film directement sur eux-mêmes. Donc c'est depuis son pouvoir qu'il a la possibilité de faire cette représentation, mais il essaye depuis cette position-là de ne pas parler pour les autres et de les écouter, et écouter notamment la manière dont ils pensent, ce dont ils sont, ce qu'ils subissent comme forme de discrimination structurelle. Et je pense que voilà, il se sauve du coup de beaucoup de mots de du film de banlieue qui se ferait comme un film exotisant ou de presque dans une filiation coloniale. Et en regardant le film, je repensais, un des films que j'ai choisi pour ma contribution à la Cinémathèque idéale, c'est le film de Shirley Clarke, The Cool World, qu'elle a tourné dans les années... 63, ouais, merci. 63, que Wiseman a produit, et donc qui est tourné à Harlem. Alors c'est un film de fiction, mais qui est tourné avec notamment des jeunes du quartier non professionnels, mais il y a aussi des professionnels. Et je me disais, ça résonne en fait, alors à distance de géographique, historique, etc., mais avec ce que faisait Shirley Clarke à ce moment-là. Enfin, bon, je m'arrête là, mais...
Après, je profite vraiment qu'il ne soit pas là, parce que je pense que Wiseman ne serait pas du tout d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de Wiseman, notamment vis-à-vis de la communauté africaine-américaine qui traverse tout son cinéma, et je pense que celui-là est un des très grands films sur la condition africaine-américaine, c'est que Wiseman est quand même un fils de discriminés, des parents qui ont fui l'Europe, son père a été professionnellement discriminé en tant qu'avocat à Boston, je me permets de le dire, ce qu'il a dit dans des entretiens, et je crois que c'est très important, cette conscience et voire presque condition lui-même de discriminer, et on voit très bien combien il a cherché à Il a filmé aussi les grands discriminés de la période d'après, de l'après-guerre, enfin, même s'ils avaient, ça avait bien sûr commencé avant avec l'esclavage, etc. Et en plus, c'est très intéressant de qui est Ida Wells, qui est une sorte de pré-Rosa Parks, qui est une femme née esclave, affranchie, qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, elle a refusé de donner sa place dans une, pas dans un bus à l'époque, mais dans une voiture. Voilà. Et ensuite, elle est devenue journaliste, militante pour les droits civiques jusqu'en 1931, etc. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de cadre historique. Le fait que cette cité s'appelle Ida B. Wells donne une sorte de cadre historique un peu structurel de l'histoire des États-Unis, qui est une histoire hyper violente, très discriminante, ségrégationniste, avec l'esclavage. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose chez Wiseman de rendre justice aux discriminés, dont lui-même il est d'une lignée de discriminés. Voilà.
Effectivement. Et il me semble qu'au début, je repense à High School, je me demande s'il n'y a pas des moments où il fait des jeux de plongée contre plongée, mais qui miment un petit peu les rapports hiérarchiques. Donc là, évidemment, ce n'est pas dans l'idée de lui les reproduire, mais de les rendre visibles. Mais effectivement, quand même, le découpage a changé. Il est resté très souple, mais quand même, on sent peut-être plus mûr, plus posé. Et effectivement, pour ça, il y a vraiment quelque chose d'une horizontalité à la fois symbolique, mais effectivement, vraiment... physique aussi.
D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a plein de scènes qui fonctionnent sur le panneau, comme ça, la circulation vraiment horizontale et avec un panoramique. Et juste, je repense, parce que cette question qui traverse pour moi la condition noire africaine-américaine, c'est que Blind and Deaf, qui est ce aveugle et sourd, eh bien, en arrière-plan, enfin, et peut-être plus qu'en arrière-plan, ça se passe en Alabama et il y a une sorte de double fond politique avec, c'est une école très très mixte où il y a beaucoup de jeunes, surtout dans Def, qui vraiment je trouve, dont le premier plan est un champ de coton et on est en Alabama, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui court comme ça dans le cinéma de Wiseman.
Il semble qu'il ait une perche, oui, mais je... Concrètement... Ouais, non, mais c'est important. Je crois qu'il a une perche, mais je ne sais pas.
Alors si... On le voit un moment. Aussi, hein, on peut faire un montage des apparitions de micro. On fera ça un jour. toutes les apparitions de micro dans les films de Wiseman, à un moment, on le voit, comme ça, là. Alors... je crois quand même qu'il fait beaucoup le son. Pas que... Parce que c'était des tournages 12 heures par jour, hein, oui. Donc on ne perche pas, pas 12 heures par jour. À mon avis, des fois, il perche, mais il fait beaucoup le son par le bas, voilà, avec ce qu'il appelle un micro directionnel. Mais ça, je dois dire, je ne suis pas très calé au niveau technique. Mais je crois que c'est vraiment important aussi cette position qu'il s'est donnée dès son premier film, hein, de preneur de son. C'est qu'il a le regard libre quand même, même si évidemment on est très occupé quand on fait le son, mais il a quand même la scène qui se déploie devant lui, Puis bon, il guide beaucoup le cadre.
Voilà, c'est pour ça que j'étais restée sur cette idée de la perche, mais effectivement, c'est pas possible. Mais avec cette idée que en bougeant le micro, en fait, il indiquait aussi les variations de son attention, et comme ça, il donne des indications. Mais j'en sais pas plus vraiment concrètement sur comment il travaille vraiment avec ça.
Là, il en est à son au moins 15e film avec John Davy. C'est un policier.
Début, non. Il me semble que c'est la première scène avec les policiers. Oui, voilà. Au début, on comprend pas trop ce qu'ils disent, et après, c'est pas celle-là. Oui, avec la femme au début, il me semble. Ouais. Ah non. Ah oui. Mais ce qui m'a frappé au moment de l'interpellation, d'ailleurs, c'est qu'à un moment, ou alors c'est peut-être une autre scène, on entend les policiers alors qu'ils sont loin. Et je me suis dit, tiens, là, il leur a mis un HF. Donc Mais en règle générale, le son est plutôt situé, effectivement, et le volume ou la perception sonore dépend du point de vue physique. Quoi. C'est vrai qu'il y a ça.
Voilà. Bah oui.
Non, je ne sais pas, et je pense qu'effectivement le film nous laisse dans ce suspens des voies possibles. Et c'est effectivement intéressant de se demander concrètement, enfin, c'est toujours le cas chez Wiseman, à la fois il n'y a pas toujours des personnages, là il y a quand même des personnages qu'on suit un petit peu, mais bon, on ne s'attache pas à eux comme des personnages de fiction, mais en même temps on s'attache à la communauté, là, au groupe, on se demande ce qu'ils sont devenus effectivement, mais là je ne sais pas. Après je pense que voilà, le choix de rester justement sur ce moment disons, il y a des voix qui se dessinent, et c'est ce que je disais en introduction, ce qui je trouve frappant vraiment dans le film, c'est deux voix. Il y a la voix qui vient un peu d'en haut et qui serait celle de il faut essayer tout coûte que coûte de participer au capitalisme, c'est la seule manière de s'en sortir, c'est au fond de devenir entrepreneur. Et en fait, tout ce qui intéresse Wiseman, pour qui ça a autant, si ce n'est plus, de valeur comme manière d'essayer d'inventer une manière de faire société, de vivre ensemble, c'est tout ce qui filme de la vie de la communauté, toutes les initiatives associatives, où on ne sait pas exactement le statut de chaque intervention, mais on voit que en l'absence de cette aide publique, c'est la communauté qui essaye de s'organiser. Alors on les voit en fait avec très peu de moyens face à la force, à la violence de ce système capitaliste et raciste. Mais en même temps, c'est ce qui filme, en fait, c'est une résistance. Et je me disais, ce que ça ouvre, c'est quand même, alors pas à égalité, mais on voit qu'il y a ces différentes façons possibles d'inventer du collectif, mais qui sont dans un rapport pouvoir, enfin, et de résistance, quoi, ce pouvoir. Et je trouve que la fin, ce qui est terrible, c'est qu'il y a à la fois quelque chose d'un discours comme ça de « on va vous sauver », et pleine de bonnes intentions, en plus, de la part de quelqu'un qui vient de ce milieu-là, et en même temps, voilà, là, on va vous sauver comment vous allez devenir entrepreneur. Et je trouve que c'est très, enfin, ça me, c'est très cruel en fait, parce qu'on sait bien que ce fantasme de la success story, bah, c'est l'exception. Et en fait, là, on voit que c'est un problème structurel. Et donc, même s'il y a un ami qui a gagné 7 millions en quelques années, c'est
un des films de Wiseman où enfin. Moi, je dirais que cette séquence finale, c'est un prêche, qui est ce qui, avec la religion, n'est pas, c'est plutôt celle du capitalisme, de l'entrepreneuriat. Et c'est un film où la religion est très absente. Alors, il y a cette espèce de plan un peu obsédant sur la chapelle, voilà, qui revient souvent. Mais c'est vrai que c'est un film où alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aliments religieux. Et de prêches, de sermons vraiment typiquement religieux dans le cinéma de Wiseman, et ça m'amène à l'idée qu'effectivement le Dieu est absent ici, il a déserté y compris cette société.
Mais c'est vrai que la scène finale serait un prêche capitaliste, mais il y a aussi au début la présidente de la communauté, donc d'ailleurs un crucifix derrière elle, qui à un moment dit, je crois quand elle dit aux policiers, elle leur dit bon, si vous venez là, vous aurez le prêche. Voilà, donc c'est une sorte de, voilà, dans cette alternative, il y aurait cette autre figure qui croit en une cause, voilà, plus haute, qui serait bon peut-être animée aussi par cette religion. Donc c'est pas évoqué comme tel, mais il y a, voilà, il y a deux prêcheurs, quoi, en quelque sorte.
C'est vrai, je pense que le Ron Carter, hein, qui était un grand basketteur, je crois, c'est vraiment de l'ordre du prêche, hein, vraiment, voilà, avec des ouailles plus ou moins réceptives.
Il y a le moment, il y a la séquence où ils discutent de la violence parent-enfant, où là, c'est un cadre, il y a ça. Mais c'est vrai que c'est la génération qui est peut-être la moins... Oui, oui, oui. Mais qui prennent la parole, effectivement. En fait, j'ai l'impression que sur la jeunesse, ils se focalisent plus sur les enfants. Moi, j'étais vraiment touchée là, pendant tout le film, par les enfants, et notamment la scène à l'école au moment du train. J'avais les larmes aux yeux. Enfin, je trouvais que c'était vraiment... Et il y a les enfants qui sont très présents, soit dans des séquences, celle-là qui est vraiment consacrée à eux, mais sinon, c'est présence qui parcourt le quartier en permanence, et avec toujours cette question de l'avenir et de cette reproduction qui est de génération en génération implacable de ces inégalités. Et c'est toute la question. Et le film se finit là-dessus aussi. Et après, effectivement. Mais c'est vrai que je ne sais pas, oui, pourquoi pas plus les ados.
Cette scène d'éducation sexuelle qui est, où le son est complètement parasité par des cris d'enfants. C'est une ironie wismanienne suprême, là, je trouve. Bien, à moins qu'il y ait peut-être, je ne sais pas où tu veux. Merci, je me reste à
vous.
Merci beaucoup, Camille Louis.
Merci pour l'invitation. C'était super de revoir le film.
Et donc, à retrouver les films sur le site de la Cinémathèque Idéale en mars. Voilà, Cinémathèque Idéale des banlieues du monde. Contribution de Camille à retrouver. Voilà. Bonne soirée. Demain. Alors c'est vrai que c'est pour l'emploi du temps, c'est pas facile, mais demain, le diptyque Domestic Violence, un film extrêmement puissant. Voilà.